Philosophie de l'art, Père Philippe, 18 novembre 1982, Rimont.
Connaissance pratique et voir comment, à l'intérieur de la connaissance pratique, il y a cette division entre la connaissance éthique et la connaissance du facere. Je crois que c'est important de bien saisir cette division, qui est une division qu'Aristote, le premier, fait. Alors, après, ça a disparu. Quand vous regardez chez les stoïciens, ça n'existe plus beaucoup. Après, quand vous regardez chez Épicure, ça n'existe plus. Et c'est intéressant de voir cela, de voir que de fait, ça... Et alors, quand vous regardez dans la dialectique, on peut dire que ça n'existe plus, ces distinctions-là. Alors, dans la connaissance pratique, vous avez une connaissance pratique en vue de l'action. Une connaissance pratique en vue de l'œuvre. Voilà les deux finalités différentes. Donc, connaissance pratique qui implique nécessairement l'alliance de l'intelligence avec la volonté. L'intelligence devient pratique par la volonté. Donc, c'est une intelligence qui est soumise, non seulement soumise à la volonté, comme lorsqu'il s'agit de faire attention. Volontairement, vous faites un acte d'attention. Je vais écouter. Et je vais écouter pour une connaissance spéculative. Donc, la volonté est au point de départ pour appliquer son attention. Tandis qu'ici, c'est l'intelligence qui est à l'intérieur même de la volonté, qui éclaire la volonté, qui est déterminée par la volonté. Or, la volonté est premièrement affective. Si je prends l'aspect volonté tel qu'Aristote et tel que saint Thomas l'ont donné. Parce que chez Descartes, vous savez bien, chez Descartes, la volonté est efficacité. La volonté n'est pas premièrement affective. Tandis que pour saint Thomas, la volonté est premièrement, le premier acte de la volonté, c'est un acte d'amour spirituel. On voit très bien que notre langage est cartésien. Dans le langage habituel, vous distinguez un homme de cœur et un homme volontaire. Vous dites à cet homme, il a un cœur d'or, mais il manque un peu de volonté. Hein, ça, c'est du courage. C'est du courage. Celui-là, il a une volonté de faire, il manque un peu de cœur. Hein, c'est vraiment. Hein, c'est un peu terrible de tomber sous sa férule. Il manque un peu de cœur. Et c'est vrai qu'ordinairement, il y a un petit partage comme ça qui n'est pas commode. Eh bien, en réalité, le premier acte de la volonté, c'est un acte d'amour. Nous le verrons, ça. Nous le verrons dans le Facere. C'est un acte d'amour. Notre volonté s'épanouit en premier lieu dans l'amour. Si je redis ça, ce n'est pas parce que saint Thomas le dit ou Aristote le dit, c'est tout simplement parce que, de fait, il y a un amour spirituel. Et il faut découvrir cet amour spirituel. Et cet amour spirituel, il est volontaire. Je veux aimer. Quand nous aimons spirituellement, nous voulons aimer. Et quand je dis que je veux aimer, ce n'est pas un volontarisme extrinsèque qui vient s'imposer. Non, je veux aimer. C'est très important de redécouvrir ça. Parce que c'est sous-jacent. Ordinairement, on est un peu stoïcien, n'est-ce pas ? Parce qu'on a eu des grands-pères stoïciens. Alors, on est assez stoïcien, ou bien on est freudien, ça dépend. C'est qu'arrive en silence, tomber de l'un à l'autre. Hein. On comprend très bien que le stoïcisme a engendré le freudisme. Ça, c'est normal, parce qu'on a voulu le volontarisme absolu. Alors, il faut redécouvrir qu'il y a un aspect volontaire immanent, intime, qui n'est pas quelque chose de l'extérieur. Je veux aimer. Quand je veux aimer au niveau spirituel, évidemment la passion de l'amour est en dehors de la volonté. Mais quand vous aimez vraiment d'une façon profonde, l'amour spirituel implique que je veux aimer. Ma volonté accompagne mon amour. Il est dans mon amour. L'amour est quelque chose de volontaire. C'est un premier acte volontaire. Alors, évidemment, là, je suis tout à fait d'accord qu'il faut que dans notre langage, nous fassions grande attention. Parce que quand vous parlez de façon habituelle et volontaire, on sait très bien que c'est quelque chose qui n'est pas ce premier acte d'amour. La volonté est donc premièrement une volonté spirituelle, donc une volonté affective, l'affectivité profonde, c'est une affectivité spirituelle. Et puis, il y a l'efficacité. La volonté est aussi puissance d'efficacité. Il y a les deux. Puissance d'efficacité. Un être volontaire, c'est celui qui a décidé quelque chose et puis qui va le réaliser. J'ai décidé ça et puis vous verrez, ça va se faire. Donc, on l'applique et on va aller jusqu'au bout de l'efficacité. Et l'efficacité conduit nécessairement à l'œuvre. Une efficacité, ça implique d'aboutir à une œuvre. Tandis qu'au contraire, l'amour est sans œuvre. C'est propre de l'amour. On aime pour aimer. On n'aime pas pour réaliser quelque chose. Ah, je t'aime, et grâce à ça, je peux réaliser quelque chose. C'est un peu ambigu. Ben, on aime quelqu'un pour l'aimer. Et l'amour finalise. Alors vous voyez cette chose curieuse, hein, dès que vous essayez de comprendre la volonté, vous voyez qu'il y a ces deux aspects. Premièrement, l'affectivité. Deuxièmement, l'efficacité. Alors vous commencez à comprendre comment il y a deux développements d'intelligence à l'intérieur de la volonté. Il y a un premier développement d'intelligence à l'intérieur de la volonté. C'est le développement de l'intelligence dans l'affectivité. Et ce développement dans l'affectivité aboutit à l'amour d'amitié. Qui est la finalité de cette intelligence dans l'amour spirituel. Tandis qu'au contraire, si vous mettez l'intelligence à l'intérieur de l'efficacité, à vous avis, alors, cette intelligence qui va être au service de l'efficacité, qui va vous dire alors. Vous voyez comment l'intelligence s'allie de deux manières différentes à la volonté. Elle s'allie à la volonté dans sa capacité affective, dans sa capacité d'aimer, et elle s'allie à la volonté dans sa capacité d'efficacité. Et vous avez là le partage des eaux entre l'agir et le faire. Ça, c'est très important à saisir. Pour bien comprendre que le partage des eaux entre l'agir et le faire, c'est toujours le lien de l'intelligence et de la volonté. Mais c'est à deux moments différents de la volonté. Une volonté d'affectivité, une volonté d'efficacité. Alors, il y a un lien entre les deux, c'est évident. Je distingue, je ne sépare pas, je distingue. Mais ce que je vois, c'est que l'efficience aboutit à une œuvre et l'affectivité n'aboutit pas à une œuvre. L'affectivité aboutit tout simplement à aimer. J'aime pour aimer. Je n'aime pas pour réaliser une œuvre. Quand j'aime pour réaliser une œuvre, ce n'est plus l'amour affectif d'une personne. Vous la considérez comme un objet. Vous la considérez comme un moyen pour arriver à autre chose. Mais la pureté du cœur consiste justement à comprendre que l'amour est aimé pour lui-même. Tandis qu'au contraire, quand vous aimez quelqu'un en vue d'autre chose, ce n'est plus la pureté du cœur. C'est l'efficacité. Et l'efficacité aboutit à une œuvre. Donc vous avez bien là, et je crois que tout le monde peut comprendre cela, parce que ça c'est capital. Vous voyez que cette distinction de la connaissance pratique, en vue de l'agir, donc éthique, et en vue du facere, présuppose qu'on a compris que la volonté était affective et efficiente. Oui.
La volonté puissante chez Nietzsche est effective ou efficace?
Réfléchissez. Vous croyez qu'elle est affective? Vous croyez qu'il y a une volonté de puissance affective? La volonté de puissance ne peut être qu'efficace. On veut dominer. Mais ce n'est pas une volonté. La volonté de puissance ne peut être que du côté de l'efficacité. Oui. En ce sens-là, Nietzsche est petit-fils de Descartes. Puisque pour Descartes, la volonté est avant tout efficiente. Pour Descartes, l'amour n'est que passionnel. C'est dans ce sens-là qu'il y a un lien entre Descartes et Freud. L'amour n'est que passionnel. L'amour, c'est la passion. C'est Descartes, ça. Il n'y a pas d'amour au niveau de la volonté. C'est terrible, du reste. C'est terrible de voir ça. Parce qu'alors, il n'y a plus d'amour d'amitié. L'amour d'amitié n'est qu'au niveau de la passion. Il n'y a plus de véritable amour d'amitié. On ne comprend plus comment, de fait... Ça explique des tas de choses, vous savez. Le fameux adage des pères jésuites, hein, que nous connaissons bien, hein, vous savez bien, dans les pensionnats des pères jésuites, c'est dit avec... Ça a fait le règlement de ce que c'est que la vie commune. Hein. Rarement seul, jamais deux, toujours trois. Alors c'est toujours sans le nom de la très sainte Trinité. Bon. Alors vous comprenez que c'est au fond, on ne comprend plus ce que c'est que l'amour spirituel, l'amour d'amitié. On voit tout de suite les amitiés particulières. Tout de suite. Dès qu'on voit de... Ah, amitié particulière. Attention, amitié particulière égale, on sait très bien. Hein. C'est-à-dire justement une exclusion à un aspect passionnel. Chez Descartes, l'amour est passion. Et l'amour spirituel n'existe pas, la volonté et l'efficacité. Alors, on comprend qu'une morale, à partir de là, n'est plus qu'une morale de la vertu de la volonté, de la volonté stoïcienne. Il n'y a plus une morale du bonheur. Il n'y a plus une morale de l'amour d'amitié. Ça n'existe plus. C'est très très important de comprendre ces choses-là, parce que c'est la seule manière de lutter contre le freudisme. Je vous affirme, hein, ayant fait un dialogue pendant 15 ans avec des freudiens, j'ai compris que la seule manière de leur faire sauter leur freudisme, c'était de créer entre moi et eux une véritable amitié. Et le jour où il y a eu cette amitié, une véritable amitié, une amitié qui faisait qu'on pouvait parler librement, comme on parle avec des amis, avec confiance, eux-mêmes ont dit, ah, Freud n'aurait pas compris ça. Freud ne peut pas comprendre l'amour d'amitié. Comme Descartes ne peut pas le comprendre. Alors Descartes est à l'intérieur de l'Église et Freud est en dehors. Mais l'un et l'autre ne comprennent pas. Et c'est en ce sens qu'on est obligé de reprendre quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui va beaucoup plus loin, de comprendre ce que représente l'amour d'amitié. Alors évidemment, il y a toujours le point de vue passionnel qui risque de se mêler. On sait bien ça. L'amour est spirituel, mais l'amour peut être aussi passionnel. Il est toujours lié. Il n'y a pas un amour volontaire qui n'est pas en même temps passionnel. C'est impossible autrement. Parce que l'amour saisit le sujet tout entier, tel qu'il est, l'esprit et le point de vue sensible. Alors on doit faire attention pour une purification de cet amour spirituel. C'est évident, il faut toujours se purifier. Mais l'amour est premièrement volontaire et spirituel. Ça, c'est capital. Vous voyez, si je veux comprendre, parce que c'est intéressant à saisir ça, vous savez, en face de Freud, en face de Marx, en face de toutes les idéologies contemporaines, c'est cette distinction qu'on doit faire aujourd'hui. Plus que jamais. On doit faire la distinction en face des technocrates, ce que voulez-vous. Il faut bien faire ça, il faut bien faire cette distinction. En face de ceux qu'on veut mettre à la tête des usines, des technocrates, en oubliant que l'autorité n'est pas du côté du facere, elle est du côté de l'action. L'autorité, l'exercice de l'autorité, et ici c'est le pouvoir. Ça va vous aider à comprendre ça aussi. La fameuse distinction entre autorité et pouvoir, qui est une distinction très très importante à laquelle il faut revenir tout le temps. Parce que cette distinction, elle est enfouie depuis le XIVe siècle. Occam, toujours Occam, hein, on revient tout le temps Occam, vous allez voir, c'est tout le temps Occam qui est la bifurcation. Occam confond autorité et pouvoir. Et le dictionnaire de théologie catholique, regardez bien, quand vous cherchez autorité, rien. Quand vous cherchez pouvoir, vous voyez ce qu'on dirait sur l'autorité. Donc le dictionnaire de théologie, ça va loin, parce que ça prouve qu'au fond, tous ceux qui ont fait le dictionnaire de théologie catholique n'ont pas vu qu'il y avait une distinction fondamentale entre autorité et pouvoir. C'est pas la même chose du tout. Vous n'avez qu'à comprendre. Hein. Le démon a un grand pouvoir. Le démon n'a aucune autorité. Si le démon avait autorité, vous devriez lui obéir. Et le démon a un grand pouvoir. Dieu lui laisse un grand pouvoir, mais il n'a aucune autorité. Là, vous le saisissez tout de suite. Hein. Vous saisissez tout de suite qu'il y a une différence entre le point de vue de l'autorité et le pouvoir. Quelqu'un qui veut... Vous voyez, la volonté de puissance, c'est le pouvoir, c'est pas l'autorité. C'est la volonté de dominer. Les idéologies athées sont pour le pouvoir et n'ont pas d'autorité puisqu'il n'y a plus de finalité. Vous n'avez d'autorité que dans la mesure où vous avez le sens de la finalité. Votre autorité, elle dépend du sens de la finalité que vous avez. Votre autorité de celui qui enseigne, c'est celui qui cherche la vérité. La seule autorité qu'on a quand on enseigne, c'est de rechercher la vérité. Alors évidemment, vous pouvez avoir un très grand pouvoir, le pouvoir de dire à quelqu'un, je te mets à la porte. Si tu n'acceptes pas que je te mette à la porte, il y aura un gros chien qui sera derrière. Alors on mettra à la porte. Mais ça, c'est le pouvoir, c'est pas l'autorité. Dès que vous ne cherchez plus la finalité, vous n'avez plus d'autorité. Ça va très loin, de ces choses-là. C'est pas commode dans les applications. Mais c'est quand même ce qu'il faut voir. Autrement, on est dans l'erreur. Et alors, on commence à faire des choses qui sont fausses. Et on ne sait plus ce que c'est que l'obéissance. L'obéissance regarde l'autorité et pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est de l'ordre de l'efficacité. C'est des moyens en vue de l'efficacité, en vue de réaliser une œuvre. On réalise une œuvre. Alors, il faut du pouvoir, c'est évident, pour réaliser une œuvre. Si vous n'avez aucun pouvoir, vous ne réaliserez rien du tout. Mais l'autorité, ce n'est pas l'œuvre. L'autorité, c'est de permettre à des personnes humaines d'atteindre leur fin. On a autorité dans la mesure où on est tendu vers la fin et dans la mesure où on va permettre aux autres d'atteindre la fin. Alors vous voyez que tout ça repose sur cette petite distinction qu'Aristote fait en passant, sans crier gare. Tout simplement, la distinction entre le point de vue de la connaissance pratique qui regarde l'action, le pratein, et puis l'autorité, la connaissance pratique qui regarde l'œuvre. Alors, se rattache l'une l'autorité, l'autre le pouvoir. Alors, il s'agit de distinguer, il ne s'agit pas de séparer. Ça, j'y reviendrai, il ne s'agit pas de séparer. Nous portons en nous ces deux connaissances, chacun d'entre nous. Mais l'une est plus ou moins développée. Je vous ai déjà dit, c'est comme deux jumeaux que nous portons en nous. Nous portons en nous ces deux connaissances. Alors il y en a une qui quelquefois est plus développée, l'autre moins développée, c'est assez difficile à voir. Et c'est bien évident que ça, en fonction du contexte dans lequel on est, l'une se développe beaucoup plus que l'autre. Mais les deux doivent se développer et les deux doivent se distinguer. Alors on va essayer de comprendre ça, parce que ça c'est très très important de comprendre ça. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être la distinction principale à faire. 10 ans auxquels j'ai eu contact avec, ou c'était avec les syndicalistes en Suisse, les secrétaires des syndicats, chrétiens, protestants et catholiques, et à Paris, les chefs d'entreprise, c'est toujours cette distinction entre autorité et pouvoir. C'est très curieux qu'ils ne font pas. Ils ne font pas cette distinction-là, parce qu'on est dans un contexte où la confusion a été telle qu'on ne fait plus la distinction. Alors ne faisant plus la distinction, vous confondez la finalité et l'efficacité. Et quand vous confondez l'efficacité et la finalité, alors à ce moment-là, vous ne pouvez plus du tout rien comprendre. C'est quand même important de comprendre que le point de vue moral, c'est de l'ordre de l'amour et de la finalité. Tandis qu'au contraire, l'efficacité, c'est important l'efficacité, l'œuvre qu'on doit réaliser. C'est très très important. Et on a besoin de réaliser une œuvre. Mais celui qui est entièrement fixé sur l'œuvre oublie sa finalité. Alors la finalité, c'est beaucoup plus difficile, vous comprenez, parce que ça ne se voit pas. On la porte au-dedans de nous-mêmes, tandis que là, ça se voit. Ça se voit, parce que vous réalisez une œuvre, vous réalisez une tarte, ça se voit, et ça se mange. Tandis qu'au contraire, la finalité, ça ne se voit pas. C'est quelque chose qui se creuse en nous. C'est cette finalité qui devient de plus en plus profonde en nous et qui fonde en nous notre intériorité. Notre intériorité, elle est du côté de la finalité. Dans la mesure même où nous sommes finalisés, nous sommes plus capables d'aimer et il y a en nous une force qui provient de l'amour, qui n'est pas la volonté de puissance, c'est autre chose. C'est l'amour qui se développe en nous. Donc, vous voyez bien cette distinction, je crois ça très capital. Une fois qu'on a compris cette distinction, maintenant nous allons partir de l'expérience du travail, pour essayer de comprendre comment par le travail nous allons découvrir progressivement exactement par l'amitié. Vous voyez, les deux cours doivent se voir toujours en parallèle. C'est ça qui est intéressant, de voir les deux en parallèle. L'analyse de l'amour d'amitié, l'analyse du travail. Les deux grandes expériences de notre vie. Les deux grandes expériences. L'une est mesurée par le temps, l'autre est en dehors du temps. C'est sûr, le travail est mesuré par le temps. Mais il y a à voir, les cours durent tant de temps. Et vous travaillez tant de temps pour le bien commun. On vous donne ça. Ça, c'est de l'ordre du temps, le travail. Tandis qu'au contraire, l'amour d'amitié ne se mesure pas. Même quand on dit qu'on fait une oraison d'une demi-heure, eh bien, c'est parce qu'on est obligé, parce qu'on a un règlement, et qu'on a une vie commune. Mais autrement, l'oraison n'a pas de temps. C'est en dehors du temps. Ça, c'est sûr. C'est en dehors du temps. Le temps de l'oraison, c'est le temps où on doit aimer. Alors, c'est dès qu'on est dans l'ordre de l'amour, on est au-delà. Donc, regardons maintenant l'expérience du travail. Je prends exprès le travail. Pourquoi ? Parce que, à l'égard du facere, c'est le travail qui est, pour moi, le moment le plus conscient. J'ai la conscience la plus grande. Vous allez voir tout ce qui est impliqué dans le travail. Tous les éléments du travail, quand j'analyse le travail, j'ai l'expérience du travail, nous avons tous l'expérience du travail, hein. Intellectuel ou manuel, peu importe, les deux s'éclairent mutuellement, parce qu'on doit toujours avoir les deux, on ne doit pas uniquement être un homme d'expérience. Évidemment, pour chacun d'entre nous, il y a une dominante, hein. Pour celui qui toute sa vie a fait un travail intellectuel, il y a une note dominante, le travail de la cuisine est moins dominant, n'est-ce pas ? Mais pour quelqu'un qui a été cuisinier toute sa vie, alors le travail culinaire est dominant et le travail intellectuel est souvent moins dominant. Mais ça importe peu, le tout c'est de comprendre que tout ça c'est le travail. Le travail implique un devenir. Tandis que vous ne diriez pas la même chose de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié implique un devenir, mais l'amour d'amitié n'est pas dans le devenir. Vous voyez comme c'est différent tout de suite entre les deux. Le sens du devenir, l'intériorité du devenir, c'est le travail. Le travail vous donne le sens d'un certain devenir. Il y a une espèce de durée du travail. Tandis que l'amour d'amitié ne vous donne pas le sens du devenir. Vous savez très bien que l'amour d'amitié n'est pas né d'un seul coup. Il a fallu du temps. Ce que les anciens disaient, vous allez prendre une certaine quantité de sel ensemble pour pouvoir dire qu'on avait vraiment une amitié. Parce que c'est vrai. L'amitié d'une journée, la rencontre extraordinaire de quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un de formidable, je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi formidable de toute ma vie. Enfin, je l'aime. Vous le connaissez depuis longtemps ? Je l'ai vu une fois. C'est très facile que ce soit le point de départ d'un grand amour et d'une grande amitié. Ou bien ça peut être pas un feu de paille, non, c'est pas ça, mais ça peut être quelque chose qui a été très beau, mais qui ne durera pas. C'est très très différent, vous voyez, il y a une espèce de... Il peut y avoir ces choses très étonnantes, ça c'est tout le phénomène humain, enfin, et tout le phénomène de l'éveil de l'amour. L'amour, pour être profond, demande du temps. Mais l'amour est au-delà du temps. Donc il y a un certain devenir dans l'amour d'amitié. J'allais dire que l'amour d'amitié est enveloppé d'un devenir. Mais il n'est pas dans le devenir. Il est enveloppé dans un devenir. Tandis que le travail, il est dans le devenir. Vous n'avez pas un travail qui soit au niveau de l'être. Le seul travail qui soit au niveau de l'être, ce serait la création. Qui, d'une certaine manière, n'est plus un travail. On verra, on se posera la question. Est-ce que je peux dire que Dieu travaille quand il... Question intéressante. Ou est-ce que, tout simplement, quand je dis que Dieu travaille, quand il crée, c'est métaphorique. Comme lorsque vous dites que la machine travaille, c'est métaphorique. Quand vous dites que le bœuf travaille, c'est métaphorique. Donc il y a le bœuf et Dieu. Et l'homme, c'est celui qui travaille. L'homme est caractéristique par le point de vue du travail. Alors, essayons de comprendre que la grande expérience que j'ai du fait de gérer, c'est le travail. Ça, c'est très très important de regarder ça. Qu'est-ce que c'est que le travail? Je vais essayer de voir, et puis après, nous essaierons d'analyser progressivement tous les différents éléments qui sont mis dedans. Bon, le travail, je prends le travail manuel, hein. Vous pouvez avoir en même temps le travail intellectuel, c'est la même chose. Le travail d'un cours, vous travaillez quand vous écoutez un cours, ouais, j'espère, parce qu'il y a un travail, il y a un labeur, il y a l'éveil à l'égard de quelque chose, on va essayer de travailler. Alors. Le travail, regarde la matière. Maintenant, parce que le devenir, tout devenir, regarde la matière. Pour qu'il y ait un devenir, il faut que la matière. Alors, il y a un devenir des deux côtés, hein, le travail. J'allais presque dire, le travail, c'est la rencontre de deux devenirs. C'est le devenir de la matière et le devenir de l'homme. C'est la rencontre des deux devenirs. C'est ça qui est très, très unique. Tandis que je ne peux pas dire ça du tout de l'amour d'amitié. Hein. Vous comprenez que la matière, par le travail, la matière est transformée. Le travail, c'est la transformation de la matière. Je transforme notre univers pour lui donner une nouvelle figure. L'univers acquiert une nouvelle figure. La figure de ce monde change, comme dit saint Paul. Je change la figure de ce monde. Et c'est vrai, je transforme la figure de ce monde par le travail. Transformation de la matière. Voilà ce que c'est que le travail. En vue du leur. Donc je prends matière ici dans un sens très très général qui rejoint le sens marxiste. Qu'est-ce que c'est que la matière pour un marxiste? Ce qui est capable d'être transformé. Eh bien, quand je regarde, et ça c'est ça qui est intéressant, quand je regarde le travail dans la lumière, quand je regarde la matière dans la lumière du travailleur, de l'homme travaillant, que je dois mettre l'homme ici, l'homme travaillant, je dis que la matière, c'est ce qui est capable d'être transformé. Tout ce qui est capable d'être transformé est matière pour le travailleur. Notre langage est capable d'être transformé pour le poète en tant qu'il travaille. Et il modifie le langage. Il lui donne physionomie. Il y a un labeur qui fait que le langage va être pris de manière multiple et diverse. Quand je prends ça montre comment, de fait, la matière, c'est très très large, hein, capacité à être transformée. Et alors, cette capacité de transformer en vue de l'œuvre. L'œuvre, c'est le fruit. C'est le fruit propre du travail. Je peux dire le fruit propre du travail. C'est donc un effet. Et les scolastiques diront, c'est finis effectus. C'est un effet qui est en même temps une fin, qui est très curieux. C'est contradictoire, un hein, effet, une fin. Et en pourtant le dire, la scolastique aime de dire que l'œuvre, c'est finis effectus. C'est la fin du travail. Quand l'œuvre est faite, on s'arrête. Quand Dieu a façonné l'homme et la femme, Dieu séparé. Le repos. Au terme du travail, il y a le repos. Pour l'homme, vous comprenez bien, c'est l'homme qui se repose. Ce n'est pas la matière. Mais c'est l'homme qui se repose. Alors, il y a l'homme qui travaille et qui, une fois qu'il a réalisé l'œuvre. Donc l'œuvre est un terme. Ça termine. C'est quelque chose qui termine. Donc c'est vraiment une fin. Tout ce qui est terme, télos. Hein, télos. C'est la fin, c'est le terme. Et en même temps que c'est la fin et le terme, c'est en même temps un effet. C'est ce qui est produit par le travail de l'homme, c'est à la fois un effet et une fin. C'est ça qui est particulier dans l'œuvre. On reviendra sur l'œuvre, parce que c'est très important de saisir ce que c'est que l'œuvre, comme telle. Ergon, en grec. Et en latin, opus. Hein? Opus Dei. C'est bien ce que ça veut dire. C'est l'œuvre qui est le fruit de cela. Alors, donc le travail est finalisé par l'œuvre. Il est en vue de l'œuvre. Il provient de l'homme. le travail va impliquer des outils. Normalement. L'invention des outils, c'est pour le travail. Si l'homme n'avait pas travaillé, il n'irait pas inventer d'outils. Il a besoin d'outils. Pourquoi ? Il a besoin d'outils comme complément de son corps. C'est le complément du corps, l'outil. Vous voyez, l'auto, c'est le complément des jambes. Hein. Ça va plus vite que la course, que vous l'avez. C'est plus vite. C'est pour ça que je fais cet outil. Autrement, je n'aurais pas besoin, si j'allais plus vite que l'auto, je n'aurais pas besoin d'outils. Je veux dire aux gens, mais voyez, prenez-vous, et moi je viens plus vite que vous. Donc c'est pas la peine. Hein. Donc j'en ai pas besoin. Si ma main pouvait me servir hein, de n'importe quel outil, je n'aurais pas besoin d'outils. Vous auriez des ongles suffisamment forts pour faire un tournevis. Je n'aurais pas besoin de tournevis. J'ai des ongles de fer. Alors, très bien, allez-y. Et puis j'ai une main tellement puissante que je peux la mettre sur le feu et faire cuire un œuf. Pas besoin. Pas besoin de choses. Mais c'est le prolongement, vous voyez, le prolongement de la main, alors, imaginez, c'est comme l'imagination, c'est extraordinaire. Je vois que tous les outils prolongent la main. Tous les outils prolongent la main. Tous les outils prolongent les pieds. Puisque c'est pour aller plus vite. Des échasses automatiques, hein, et qui vont plus, ça va plus long, plus vite, pour essayer de dépasser. Et alors, prolonge les mains aussi, les ailes. Ça prolonge, c'est le prolongement de l'homme qui. C'est extraordinaire, ça. Cette espèce de chose fabuleuse, hein, quand on essaie de comprendre ce que c'est que l'outil. L'outil, le prolongement du corps de l'homme. C'est le prolongement du corps de l'homme. Mais c'est un prolongement en vue. C'est le prolongement du corps de l'homme. Mais c'est un prolongement en vue. Puisque l'homme travaille à cause de son corps. Le corps est engagé dans le travail. Le corps est toujours engagé dans le travail. Et alors, le prolongement du corps, l'outil. En vue, pourquoi l'outil ? En vue d'une efficacité plus grande. Ah, oui, comme l'outil est intéressant. L'outil met en pleine lumière l'efficacité. L'outil, ce n'est pas du tout pour la finalité. L'outil ne me donne aucune nouvelle finalité. Mais il conditionne mon travail pour que le travail se fasse dans une rapidité plus grande, et donc une efficacité plus grande. C'est la question de la rapidité. C'est pour ça que l'outil qui dans notre monde prend une valeur si grande, fait que tout va si vite. Un des phénomènes particuliers de notre monde aujourd'hui. Tout va si vite, ça va d'une rapidité extraordinaire. Et ça, c'est de l'ordre de l'efficacité, la rapidité. La rapidité de ce monde. Donc l'outil permet l'efficacité plus grande en vue d'une heure. Alors, plus l'œuvre est quantitative, plus l'outil est important, puisque plus l'efficacité est importante. Plus l'œuvre est qualitative, plus l'outil est moins important, ou moins l'outil est important. Et ça, c'est une chose qu'on va essayer de comprendre, ça, progressivement. C'est intéressant de voir que l'outil apparaît là. Avec l'outil apparaît la méthode. Alors, l'outil est le prolongement du corps, mais il y a un nouvel outil qui est le prolongement de la raison. Les tables à calculer, l'ordinateur, c'est le prolongement de la raison. Alors là, vous avez donc deux sortes d'outils, c'est pour ça que c'est très important l'apparition d'un nouvel outil. Parce que c'est un prolongement de la raison, le prolongement des calculs, la rapidité des calculs, c'est toujours en vue de la rapidité. Et de l'efficacité. L'efficacité implique le point de vue de la rapidité. La finalité est en dehors de la rapidité, parce que l'efficacité est liée au devenir, et alors le mouvement, parce que le devenir c'est le mouvement a comme qualité particulière la rapidité, normalement. Le mouvement implique une rapidité, mais le mouvement implique aussi un rythme. Et alors la rapidité peut supprimer le rythme. C'est très bien. Comme c'est un devenir vital, comme c'est un mouvement vital, il ne faut pas l'oublier. Le travail est un mouvement vital, c'est un devenir vital, c'est un devenir de l'homme. Quand il est dans la matière, il est uniquement quantitatif. Et comme il vient de l'homme et qu'il est une, dans ce devenir, il y a un devenir vital. Si à devenir vital, il y a un rythme. Il y a un rythme. Et la rapidité peut très bien supprimer le rythme. Alors, il y a beaucoup de conséquences là-dessus. Mais si le travail est trop rapide, le devenir vital, en tant que vital, en tant qu'impliquant un rythme, est brisé. Alors, ça a des conséquences pour l'homme travailleur, vous voyez. Il se peut très bien que l'œuvre se passe mieux et plus rapide, mais le travail sera moins humain, parce qu'il n'aura plus ce rythme vital, profond, qui est propre à l'œuvre. Alors évidemment, il y a des rythmes différents, c'est très bien, on ne pédale pas tous du même pas, on peut pédaler plus ou moins vite. Il y en a qui ont besoin d'aller très vite. Très bien, c'est très bien dans la scène de l'éducateur. Il y a un rythme vital, il y a un rythme vital plus ou moins rapide. Alors il y en a qui sont plus ou moins rapides. Il y en a qui prient lentement, il y en a qui prient rapidement. On va dire, ah, il n'y a qu'une seule manière de prier, c'est la lenteur. Non. Non. Enfin, la lenteur, c'est dormir. Donc, vous voyez, ça supprime donc la prière. C'est un rythme vital. Le rythme vital, c'est ce mouvement vital. Le travail est un mouvement, un devenir vital. C'est très intéressant à voir ça. Parce que ça fait comprendre comment l'outil peut très bien, en fonction d'une efficacité trop grande, supprimer le rythme vital. Et alors l'efficacité l'emporte à ce moment-là, et l'efficacité tue ce rythme vital. Alors à ce moment-là, on devient uniquement, vous voyez, quelqu'un qui est là pour répéter toujours le même geste. Alors il y a une espèce d'automatisme qui remplace le rythme. Et l'automatisme, quand il remplace le rythme, peut très bien maintenir une efficacité pendant un certain temps, mais au bout d'un certain temps, l'efficacité elle-même diminue. Parce qu'il n'y a plus ce rattachement à la source. La source, c'est l'homme. La source du travail, c'est l'homme. Le travail est humain par sa source, il doit être humain par l'œuvre. Parce que l'œuvre doit être, vous voyez, l'œuvre peut être un outil. La première œuvre qu'on peut faire, ça peut être un outil. Donc l'œuvre peut être donc tout à fait utile. Quand c'est utile, l'œuvre peut être l'aliment. Et l'œuvre peut être l'aliment et tout ce qui vient s'ajouter pour l'homme, les vêtements, l'habitant, c'est plus que utile, parce que c'est l'usage. L'usage que l'homme en fait. Et l'usage le plus parfait, c'est l'égard de l'aliment. Et puis l'œuvre peut être quelque chose qui est de l'homme agréable. Bien-être.
L'ordre de la contemplation. L'ordre du plaisir.
Les différents niveaux de l'œuvre. Hein. C'est aussi intéressant puisque ça finalise. Alors, parce que ça finalise, on peut comprendre qu'il y a des niveaux différents de l'œuvre. J'essaie de comprendre toute la complexité du travail. Hein. Si j'oublie des éléments, vous me le direz. Hein. Parce que c'est intéressant de voir toute la complexité. Il faut voir toute la complexité du travail. Le travail est un nœud de l'activité la plus complexe de l'homme. Je crois que parmi toutes nos opérations, l'opération la plus complexe est le travail. Ça mobilise tout l'homme, le travail. Tout l'homme est mobilisé dans le travail. Alors, il y a des opérations plus intenses et plus parfaites, hein, c'est bien évident. Mais le travail est l'œuvre parfaite de l'homme en tant qu'il a un corps, de l'homme en tant qu'il a un esprit, une raison. Alors, c'est là qu'on va essayer de comprendre. Le travail en vue de l'œuvre implique donc une orientation. J'ai un projet que j'exécute. Le travail est de l'ordre de l'exécution. J'exécute ce travail. J'exécute, je veux dire, le projet. Et c'est en travaillant que j'exécute. Il y a donc, avant le travail, le point de vue du projet. Le projet donne l'orientation à mon travail. Le projet, d'une certaine manière, va mesurer mon travail, puisqu'il l'ordonne, puisqu'il l'oriente. Et donc, avant le travail, avant l'exécution, il y a toute une phase immanente qui est au-delà du devenir. C'est l'exécution qui est dans le devenir. Et avant l'exécution, avant l'application, il y a donc une phase immanente. Cette phase immanente, c'est ce projet que j'ai conçu en moi. Ce projet ou cette idée, peu importe comment vous l'appelez, cette idée que je veux réaliser. Cette idée, ce projet, proviennent quoi? Ils proviennent de mon inspiration. Si je suis celui qui prend toute la responsabilité de mon travail, ce travail présuppose un projet, présuppose une idée et donc présuppose une inspiration. Mais je peux très bien aussi être uniquement un exécutant. Il y a un autre qui a pensé pour moi. Ça peut très bien arriver. Il y a un autre qui a pensé pour moi. Un homme plus intelligent qui a eu plus de temps que moi, il a pensé pour moi. Moi, je ne fais qu'exécuter. Alors, vous dites, c'est idiot ce que vous... J'exécute. Je travaille. Je suis à manœuvre. J'exécute seulement. Un autre a pensé. Ça n'a pas d'importance hein, s'il y a de fait une intervention. Ce qui est sûr, c'est que le travail est de l'ordre de l'exécution. Que le travail implique une orientation puisqu'il est orienté vers le point de vue de l'œuvre, et donc il présuppose nécessairement un projet, il présuppose nécessairement une idée. J'ai une idée quand je travaille. Je veux réaliser quelque chose. Ou je réalise, ou j'exécute ce qu'un autre a pensé. Donc, avant le travail, il y a l'inspiration. Et avant l'inspiration, il y a l'expérience artistique. Je dis artistique. Pour bien comprendre que cette expérience est d'un type utilitaire. Il y a des expériences utilitaires. Ou d'un type, ça dépend s'il faut réaliser un outil, ou d'un type alimentaire. J'ai mangé de l'herbe et j'ai trouvé qu'elle était amère et qu'elle était excellente. Et après avoir mangé cette herbe, je me suis dit peut-être que je pourrais en faire de l'alcool. Alors, un alcool très particulier. Alors, j'ai un petit projet, vous voyez, un petit projet comme ça. Il y a une expérience. Il y a une expérience alimentaire. Ou une expérience de l'odorat, n'importe quel art. Hein, les cinq sens sont présents, comme c'est une expérience artistique. Ou utilitaire, ou quelque chose qui, justement, est uniquement de l'ordre de la qualité. Au fond, il y a une expérience qualitative qui est au point de départ de toute inspiration. C'est ça que j'appelle l'expérience artistique. Hein. C'est une expérience d'une qualité particulière. C'est propre de l'expérience artistique. Un artiste saisit les réalités qui sont autour de lui d'une autre façon qu'un homme purement utilitaire. Et saisit d'une autre façon qu'un homme qui ne fait pas beaucoup d'attention. On y reviendra. Donc il y a l'expérience, l'inspiration, d'où va naître un projet. Donc il y aura un choix. À partir de l'inspiration, je peux dire qu'il y a un choix. Et je pourrais dire qu'il y a un choix créateur. Ce choix créateur peut être très divers. Hein, parce que je peux réaliser ce choix créateur dans un projet. J'ai un projet à réaliser. Alors, c'est un choix créateur à l'intérieur de l'inspiration. Et ce choix créateur va orienter mon exécution, va même la mesurer. Pour réaliser cela, il y a un choix de la matière. Je suis capable de choisir la matière en vue, à cause du projet que j'ai, à cause de l'idée que j'ai. Cette idée, je ne pourrais pas la réaliser dans n'importe quelle matière. Et donc, je choisis la matière, je choisis la matière. Je choisis les instruments, choix d'outils. Choix de l'instrument, je vous dis c'est l'instrument. Et à cause de l'outil, la méthode qui est liée à cela, le choix de la méthode vient en raison de la matière et en raison de l'outil et en raison de la matière. Vous voyez, tous les choix qui s'imposent, à chaque moment, il y a un choix particulier. Et c'est un choix qui est d'un type très particulier. Ce n'est pas n'importe quel choix. C'est un choix dans la ligne du Facere. C'est un choix dans la ligne de l'œuvre que je veux exécuter. Et puis, il peut y avoir, ordinairement, un jugement critique. Je m'arrête dans mon travail pour voir si ce que j'exécute est bien conforme à l'idée que j'en ai. Je m'arrête, je regarde. Regardez, quand on regarde un artisan travailler, c'est extraordinairement net. Il s'arrête tout d'un coup, puis... il réajuste. Il voit bien. Parce que justement, il a ce projet qu'il doit réaliser. Alors il y a ce jugement critique, ce jugement qui discerne au milieu de son travail. Autrement dit, son travail va impliquer une certaine lucidité. Une lucidité critique. Et puis alors, ajoutons encore, si vous voulez, un dernier élément. Parce que je crois que là, tous les éléments y sont. Hein. Et on va réfléchir sur cela. C'est très intéressant. On fera l'analyse parallèlement de l'amour d'amitié. Et vous aurez alors là l'analyse de ces deux expériences qui sont nos deux grandes expériences humaines. J'ajoute tout de suite ici quelque chose de nouveau. C'est que je peux travailler seul ou je peux travailler avec un autre. Je peux choisir seul ou choisir avec un autre. Il y a donc dans le travail cette réalité particulière que mon travail peut très bien être associé à un autre travailleur. On travaillera mieux à deux. Ça modifie la chose. C'est pas la même chose de travailler seul ou de travailler à deux. Les carmélites travaillent seuls, les trappistes travaillent ensemble. Oui. Ça fait deux spiritualités différentes. Il y a des gens, et dans le travail intellectuel, on sait très bien, certains ne peuvent travailler que seuls. Pas moyen autrement. Le travail intellectuel, ça peut très bien se faire comme ça. Et d'autres, au contraire, travaillent beaucoup mieux s'il y a quelqu'un à côté. Donc le travail peut très bien impliquer une coopération. Cela ne fait pas partie directement du travail, mais ça modifie le travail. Et donc c'est intéressant à noter. Ça modifie le travail. Le travail n'est pas le même s'il y a de fait quelqu'un qui vient m'aider, avec qui je coopère, en vue de l'œuvre. Je coopère toujours avec un outil, mais je dirais que la coopération avec un outil, ce n'est pas la même chose que la coopération avec un autre travailleur. Vous voyez, c'est très différent, parce que l'outil, je l'assume, et l'outil, il est dans mes mains. Tandis que celui qui coopère avec moi, je coopère avec lui. Et nous avons en vue la même œuvre. Alors réfléchissez là-dessus. Hein. Si vous voyez autre chose à ajouter, vous le mettrez. Parce que c'est intéressant à voir. Bien comprendre, les différents moments, quand je mets le choix, vous comprenez très bien, il y a une liberté qui apparaît. Il y a une liberté dans le fat chéré qu'il faut découvrir, qui n'est pas la même liberté que dans l'ordre de l'amour d'amitié. Et là, on va découvrir des choses qui sont très importantes à bien saisir. On parle tout le temps de la liberté. Hein. Attention, la liberté de l'artiste n'est pas la même que la liberté de l'ami. Et quand vous confondez, vous faites du grave. Hein. La liberté de l'artiste, c'est une liberté très particulière. Alors il faut saisir à quel moment l'artiste est libre, à quel moment il y a les libertés. Et puis réfléchissez aussi à la responsabilité. Ça aussi, c'est intéressant. Y a-t-il une responsabilité dans le facturé, dans le travail? Ou il n'y a pas de responsabilité? Est-ce que je suis responsable des instruments? Est-ce que je suis responsable de l'œuvre? Oui, une responsabilité qui est là pour essayer de comprendre comment l'homme travailleur, l'homo faber qui travaille, qui modifie la matière, qui la transforme, eh bien oui, il est libre de la transformer ou pas de la transformer, ou intervient le point de vue de la responsabilité. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure